Entretien littéraire, Mathias Sénard.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cet entretien littéraire. Aujourd'hui, un entretien littéraire bruissant d'histoires singulières. J'ai la chance de recevoir l'écrivain et traducteur Nicolas Richard à l'occasion de la parution de son roman « La chanteuse aux trois maris » que publient les éditions Inculte. Bonjour Nicolas Richard.
Bonjour Mathias Sénard.
Nicolas Richard, vous êtes traducteur de l'anglais. Vous avez traduit entre autres Thomas Pynchon, Truman Capote ou Rabbi Alameddin, mais aussi Nick Cave, Brooks Springsteen ou Leonard Cohen. Vous avez publié en 2022 un passionnant essai sur la traduction « Par instant, le sol penche bizarrement », carnet d'un traducteur aux éditions Robert Laffont. Vous êtes aussi romancier, auteur de récits aussi disparates que « Les Soniques », objet singulier écrit à quatre mains avec Kid Loco, un roman d'espionnage intitulé « La dissipation » ou encore « La chanteuse aux trois maris », paru aux éditions Inculte, qui sera l'objet de cette conversation. Nicolas Richard, la chanteuse aux trois maris, s'ouvre en 1914 dans une petite ville du Nord lorsque Emma, employée dans une mercerie, reçoit la visite de Marcel.
Oui, elle est séduite par Marcel. C'est l'ouverture du roman et extrêmement rapidement, il y a une histoire d'amour, un mariage et une mort violente. Tout ça en quelques pages.
Mais ça résume bien la dynamique du récit, qui est quand même, je pense, un des romans où il y a le plus de rebondissements presque par page. Alors on va suivre, pas seulement Emma, aussi beaucoup d'autres personnages. Et Nicolas Richard, alors comment est-ce que vous avez eu l'idée de justement écrire un roman qui commence dans le nord de la France, qui ensuite se passe à Toulouse, ensuite en partie en Amérique du Sud, en Afrique, on y reviendra. D'où vient cette histoire de cette chanteuse aux trois maris ?
Alors, cette histoire, elle vient en grande partie de ma famille, en fait. Il y a une vingtaine d'années, j'avais fait un entretien avec ma grand-mère. Et je venais de finir la traduction, d'ailleurs, de « Le temps où nous chantions » de Richard Powers. Et ça m'avait frappé la façon dont il racontait une histoire familiale. Et là, je m'étais dit, mais en fait, je suis persuadé que si on se penche un peu sur n'importe quelle famille, on va trouver des sortes de démultiplications en termes de rebondissements, mais aussi géographiques, pas nécessairement, mais ça peut. Et de fait, l'histoire que racontait ma grand-mère se déployait déjà sur le continent africain, sur le continent sud-américain, et puis en Europe. Donc ça m'a servi en fait d'une certaine manière de canevas. J'avais pas spécialement envie de raconter l'histoire de ma famille. De fait, à l'arrivée, ça ne l'est pas vraiment. Mais le fait qu'on puisse, comme ça, quand sa fille a 2 ans, en tant que jeune maman, tout quitter et aller tenter une carrière à Montevideo, puis Buenos Aires, ça arrive, quoi.
Mais ce récit, Nicolas Richard, cet entretien avec votre grand-mère, vous le faites dans l'optique de déjà d'écrire un livre ou pas du tout ?
Si, complètement.
D'accord.
J'étais pas du tout curieux d'une vérité familiale sur mes ancêtres. Ça, franchement, ça m'intéressait pas du tout. Ça m'intéresse toujours pas plus que ça. En revanche, je m'étais dit à l'époque, j'avais déjà l'esprit diabolique, je m'étais dit, y a vraiment un matériau là. Sauf que 20 ans ont passé avant que je m'y colle, parce que longtemps j'ai pensé que j'allais raconter l'histoire de ma grand-mère et que c'était assez romanesque. Ne serait-ce que parce qu'elle m'avait dit la gueule enfarinée, ah oui, moi, mon père, il s'est fait, quand j'avais 9 ans, il s'est fait assassiner par un sorcier jaloux. Donc ça, je trouvais ça dingue qu'elle me dise ça comme ça, sans manifestement en être affligé plus que ça. Mais bon, je me suis dit, oh, quoi, son père, à elle, est parti en Afrique, sur les rives du fleuve Niger, et il s'est fait assassiner par un sorcier jaloux.
Bon, ça me rappelle quelque chose quand même. C'est quand même un peu dans le livre, le sorcier jaloux.
Oui, mais sauf que 20 ans ont passé, parce que finalement, c'est une fausse piste de penser que c'est moi qui allais raconter l'histoire de ma grand-mère. Et c'est quand j'ai commencé à griffonner que je me suis rendu compte qu'il fallait que la narratrice, ce soit Jeanne, c'est-à-dire l'alter ego de ma grand-mère, et que l'histoire qu'on raconte soit finalement celle de la génération du dessus, c'est-à-dire celle de son père médecins, etc.
D'ailleurs, la narratrice dont on comprend Jeanne, qu'elle est née en 1915, qui est celle qui nous raconte l'histoire, à la première personne, qui est notre guide dans ce monde, ça pourrait être votre grand-mère.
Elle a certains points communs en termes de personnalité. Je crois qu'elle lui ressemble pas du tout. Ma grand-mère, je la connaissais pas très bien et elle me semblait plutôt antipathique. Et c'est pas impossible que je lui ai été antipathique aussi. Bref, on n'avait pas d'atome crochu. Donc c'était pas du tout un côté sentimental. Je voudrais savoir. Donc ça, c'est vraiment une reconstruction pure de se dire, quand on a 2 ans et qu'on est largué par sa mère, quels sont les sentiments de la fille et quels sont les sentiments de la mère, Marie, sa mère.
Oui, et puis aussi, qu'est-ce que ça fait d'un coup d'apprendre que son père a été tué par un sorcier jaloux.
Ouais.
Ça va quand même être une expérience qui marque quand on est enfant. Et Nicolas Richard, qu'est-ce qui fait que vous attendez qu'au bout de 20 ans, vous repreniez ces informations?
Je suis allé dans les archives, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que l'histoire familiale, elle se répétait. Et donc c'était des passages obligatoires, justement, voilà, le coup du sorcier jaloux, par exemple. Et après, moi, je suis passé par le stade où j'ai questionné ce discours officiel, presque, et je me suis dit, mais le gars est médecin, il revient de la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qu'il va faire à Diray? Qu'est-ce qu'il va faire dans ce petit village? Je suis quand même allé regarder ce que c'était, que c'est une petite ville, mais à l'époque, c'est quand même un bourg pas très important. Qu'est-ce qui fait qu'il va là? Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il avait travaillé pour une société cotonnière. Contrairement à ce que la légende familiale aurait éventuellement laissé entendre, c'était pas un médecin bienveillant qui allait sauver son prochain et guérir. C'était pas que ça. Il était engagé employé par une société beaucoup plus...
Mais alors ça, c'est un des thèmes qui rentre la chanteuse aux trois maris passionnante, Nicolas Richard. On va y venir, mais prenons peut-être les choses dans l'ordre. Donc on est dans cette société, disons, juste avant la guerre de 14, quand le roman commence, vous nous introduisez dans un monde absolument passionnant qui est celui des cabarets. Des chanteuses, bien sûr, alors que j'ai appris qu'on appelait ça les gommeuses. Et en tout cas, j'ai lu que c'était des artistes de cabaret, les prestidigitateurs, les acrobates, les raconteurs de genre et les gommeuses. Et vous aviez déjà ce matériau, ça vous intéressait le monde des cabarets, Nicolas Richard?
Non, ça m'intéressait pas dans l'absolu, mais quand j'ai commencé à creuser, j'ai trouvé ça fascinant, et exactement pour la raison que vous indiquez, c'est-à-dire presque autant pour les mots, parce que la gommeuse, j'adore ce terme qu'on croit comprendre, mais qu'on identifie, pas trop, mais on dit aussi sur des articles, des recensions de concerts ou de prestations, on parle de diseuse, et c'est pareil, j'étais pas tellement familier de ces termes-là, ou les spectacles de magie, quelle forme ils ont, puis après, du coup, d'archive en archive, je suis tombé sur des modes d'emploi qui expliquent les tours de magie, donc je me suis un petit peu enfoncé.
Ah oui, il y en a un qui est très important, qui est longuement expliqué, sur lequel on reviendra d'ailleurs. Donc c'est ça un peu cette ambiance de l'époque. On a l'impression qu'il y a une certaine reproduction d'une forme de faconde aussi, de façon de parler, de plaisir justement, de ce français qui aujourd'hui nous paraît soit argotique, soit un peu désuet, évidemment qui nous paraît bien loin de la façon de parler aujourd'hui.
Mais ce qui est en fait le plus dépaysant, je crois, et peut-être la raison pour laquelle j'ai été propulsé dans cette fiction, c'est d'attaquer par l'angle étroit de l'histoire personnelle, de quelques personnes, de quelques lettres, et puis de me rendre compte qu'en fait ça correspondait à la grande histoire, mais que jamais j'aurais porté ce regard dessus, parce que finalement on parle quand même de la guerre de 14-18, enfin on n'en parle pas, mais c'est le contexte lointain, la colonisation, mais c'est pareil, c'est jamais abordé de manière frontale, et du coup ça m'a un petit peu déstabilisé, cette idée que on puisse évoquer cette période sans immédiatement faire un rappel à l'histoire, et qu'elle bruisse un peu au loin, en indirect, essayer de mettre en scène des rapports entre les personnages avec ce contexte lointain, ça m'a paru intéressant.
Et donc Emma, qui est un peu celle qui, disons, l'araignée au centre de la toile, qui est la chanteuse aux trois maris, même si c'est pas elle, on vient de le voir, qui raconte cette histoire, et il y a aussi une Marie, qui est le deuxième personnage féminin extrêmement important. Emma commence donc une carrière de chanteuse sous le nom de Lucie de Maille, on la retrouve immédiatement en Algérie, diseuse extraordinaire. Qu'est-ce que c'est qu'une diseuse extraordinaire?
Ça, c'est le terme un des termes journalistiques de l'époque. Les journalistes, je crois que c'était un journal de Toulouse, qui avait parlé de des prestations de chanteuses comme ça.
Toulouse, d'ailleurs, qui est le centre français de cette histoire, puisque le premier mari, non, le second mari de d'Emma est toulousain et jeune médecin, apprenti médecin, se retrouve à être enrôlé, non pas enrôlé, mais à être appelé sur le front de la guerre de 14. Et ça donne aussi une certaine proximité à cette guerre de 14, qui est un peu aussi un des moments importants du récit.
Ouais. Et un des aspects, mais alors là encore, j'ai attaqué un peu la face par le versant nord, c'est-à-dire que la guerre de 14, les documents sur lesquels je suis tombé, qui m'ont intéressé, qui m'ont paru romanesques, et que j'ai utilisé, c'est l'usage de la cocaïne et l'usage de la morphine, en fait, sur place, en particulier les pilotes anglais, enfin, une grande partie des soldats anglais tournaient vraiment à la cocaïne, en fait, et la morphine était, faute de médication plus efficace, était un peu ce qu'on utilisait pour beaucoup de choses, avec des addictions possibles.
La drogue est justement un des thèmes qui traverse un peu toute la chanteuse aux Trois Maris, et notamment cette question qui vont intéresser le jeune médecin de qu'est-ce que c'est que la désintoxication, comment est-ce qu'on peut sortir, donc son camarade Émile, par exemple, des addictions les plus profondes.
Oui, ce sera la thèse de Jean Lacroix. Il écrit une thèse pour qui s'appelle Démorphinisation, qui prouve qu'on en fait un peu trop quand même sur la morphine. En fait, ça peut s'arrêter, c'est l'affaire de 5-6 jours. Il faut y aller brutalement. Et d'ailleurs, il y a des recherches en Allemagne du côté de Berlin. La preuve est faite que avec un peu de volonté, cette histoire de méthode douce, ça rime à rien. Et ça me plaisait pas mal comme propos. D'autant que le meilleur ami de ce jeune médecin, Jean Lacroix, Émile, Richard, lui est accro à la morphine et ne s'en sort pas en fait.
Et donc, c'est assez passionnant, c'est de voir à quel point cette relation avec les drogues a une histoire. Il y a un moment où on pense que le plus simple, c'est de retirer la drogue, d'enfermer la personne pendant plusieurs jours.
En toute simplicité.
En toute simplicité, et de voir ce qui se passe.
Ouais, mais quand on s'intéresse à l'histoire des drogues, on se rend compte quand même, il y a souvent des rapports avec l'armée. Beaucoup, beaucoup de drogues. On utilise l'armée comme laboratoire, ou plutôt l'armée utilise les drogues à titre, c'est ça, expérimental en fait. Donc là, c'est un écho indirect à ça.
Et donc cette société de l'immédiate après-guerre, elle est elle aussi, et donc ces cabarets toulousains sont eux aussi traversés par la drogue, par la possibilité de s'en procurer. Tout le monde demande aux jeunes futurs médecins, dont les études ont été évidemment interrompues par la guerre, s'il peut s'en procurer plus ou moins facilement. Enfin, là, on sent que c'est déjà finalement un peu comme aujourd'hui un thème extrêmement présent dans la vie quotidienne des gens de la nuit.
Oui, parce que c'est moi ça me fascine en fait la vie interlope, c'est il y a exactement un siècle en fait hein. C'est la vie interlope il y a un siècle. Donc je la mets en scène à Toulouse au Noctambule, à Paris au Dancing de Ménil et puis à Dakar au Ara Select. Donc c'est trois lieux où en fait on a une société de la nuit qui, assez directement préfigure ce qu'on peut connaître aujourd'hui, finalement.
Alors, il y a quelque chose d'assez fort dans le premier mari d'Emma, ce Marcel dont on a parlé tout à l'heure, qui va tomber, on ne sait pas trop comment, du pont Lafayette à côté de la gare de l'Est, et dont on apprend à la toute fin du livre qu'il a cette sentence pour résumer sa vie. Que fait ce Marcel ? Je lis des bouquins, je sniffe, je fume, je foire des projets glorieux.
Alors ça, c'est le frère de Marcel.
Ah.
Parce que Marcel, c'est le premier mari qui, effectivement, meurt tout de suite. Et il a un frère, qui parlera un peu à son enterrement, qui est poète, hippie 100 ans avant la lettre, 70 ans avant la lettre, mais qui va être, effectivement, un des personnages importants pour essayer de comprendre ce qui s'est passé.
Je trouve cette phrase absolument magnifique. Je lis des bouquins, je sniffe, je fume, je foire des projets glorieux. C'est presque une devise, on a envie de vivre avec cette sentence, non?
Ouais, moi je l'aime beaucoup ce personnage.
Surtout foirer des projets glorieux, ça me semble un très très beau programme. Donc 1914, Toulouse, première destination, l'Algérie, on l'a vu, retour en France, mort du premier mari, second mari...
Le calvar,
alors qu'il lui a donc en Algérie, qu'elle rencontre donc dans ce dancing algérien, inventeur et producteur du réducteur de vitesse à vis sans fin. J'ai imaginé que c'était un genre de boîte de vitesse pour les véhicules à moteur.
Oui, c'est ça. Mais ça peut servir, par exemple, pour descendre des stores. Ça, c'est utilisé absolument... enfin, ça l'a été, en tout cas, dans énormément de situations.
D'ailleurs, il est très riche.
Voilà, c'est un riche industriel. Et lui aussi, il est traité comme le premier mari. Rencontre, histoire d'amour, mariage, mort, et tout ça en deux pages. Et après...
Meurt à coup de couteau, lui.
Poignardé dans un lupanar à Toulouse, pendant que sa femme s'apprêtait à monter sur scène, la chanteuse. Et après, le motif va se développer. Lui meurt, mais le motif de la vitesse à ralentir avec la vis sans fin, elle va perdurer via la première femme de ce personnage. Ça paraît compliqué dit comme ça, ça ne l'est pas tant que ça.
Non, ça ne l'est pas tant que ça, parce que ce sont des gens qui se croisent, en fait, dans cet hôpital à Toulouse, où Jeanne, en fait, la narratrice, on apprend qu'elle est née de la première femme de ce...
C'est ça.
Jean, le calvaire.
Oui, bah ça c'est le côté presque théâtre de boulevard là qui me plaît. C'est-à-dire que à un moment donné, on peut imaginer des entrecroisements d'itinéraires. Ça c'est ma première phase euphorique. Et puis la deuxième phase plus sévère, c'est de dire bon bah s'ils se croisent, dans quelles conditions, comment est-ce possible, quelles sont les objections à faire. Et voilà.
Alors Nicolas Richard, parmi les très nombreuses péripéties de la chanteuse aux trois maris, il y en a une qui est très importante, on ne va pas la replacer exactement dans l'engrenage du roman, c'est un numéro de magie qui finit mal. Alors ce numéro de magie en soi est assez fascinant puisque c'est un magicien au nom italien qui déshabille son assistante à coups de Winchester, donc une carabine à répétition, en lui retirant avec des balles et à distance, un à un, ses vêtements. Et ce numéro tourne mal, c'est un des leitmotifs du texte. On apprendra bien sûr pourquoi, comment, petit à petit. Comment est-ce que vous avez eu cette idée absolument incroyable de ce numéro? Est-ce que ça existe d'abord?
Ouais, c'est un numéro qui existe. Je me suis retrouvé à la BNF avec un petit, avec plein de paplards, mais entre autres un petit fascicule avec la description du tour. Et ça m'intéressait beaucoup en fait de cet aspect mode d'emploi, comment ça marche. Et ce que vous pourriez préciser éventuellement, c'est que c'est les deux personnages qui sont impliqués dans cet assassinat apparent, cette mort malencontreuse, sont eux-mêmes deux personnages presque en construction, parce que Benedetto Orale, le magicien, il a un accent italien mais intermittent. On n'arrive pas à savoir si il fait semblant, s'il est vraiment italien, s'il surjoue. Et Moonson, son assistante, elle-même semble avoir des traits asiatiques. Elle dit parfois qu'elle vient d'Indochine, mais pas toujours. Et donc voilà, il y a ce jeu de reflets là, qui fait que non seulement ce qui s'est passé entre eux peut inviter au doute, ça va être un des éléments un peu clés de l'énigme générale, et en plus, on ne sait pas trop qui croire. Puisque finalement, la narration, c'est quand même Jeanne, quand elle est une dame assez âgée, très très longtemps après l'action, et qui essaye de se remettre dans l'état d'esprit dans lequel elle était quand elle avait 9 ans, en se disant, là, il y a plus d'intensité, et c'est presque ça que j'ai envie de retenir.
Oui, parce qu'elle a 85 ans, si je ne compte pas trop mal. Elle est née en 15 et on est en 2000 au moment où elle raconte l'histoire. Donc oui, elle n'est pas toute jeune. Mais on ne va pas raconter le fond de l'affaire Benedetto. En tout cas, il y a un exil, un voyage qui est pris par beaucoup des personnages du roman, qui est la première destination, qui est l'Amérique du Sud. Et là, on a aussi un bref récit de ce qu'était l'Uruguay et la capitale de l'Argentine, Buenos Aires, à l'époque, et notamment sur l'établissement de la psychanalyse européenne, puisqu'il y a le personnage de cette femme médecin, personnage très attachant d'ailleurs, qui s'établit à Buenos Aires après un passage à Montevideo.
Alors déjà, venant d'Europe, c'est pas si facile d'entrer à Buenos Aires. Donc certains, éventuellement, qui auraient des choses à se reprocher, soupçonnant qu'il n'obtiendrait pas si facilement un passeport ou un visa, préfère passer par Montevideo. Après, c'est plus simple de faire les quelques heures de trajet en bateau.
Mais l'itinéraire qu'on devine derrière, Toulouse, Buenos Aires, les cabarets, les chanteurs, c'est aussi Carlos Gardel, vous y avez pensé?
Ah non.
Vous n'y avez pas pensé? Non. Qui suit exactement cet itinéraire-là, puisque je pense qu'il naît à Toulouse et qu'on le retrouve ensuite en Argentine, à Buenos Aires. Et puis, Deuxième destination, alors extrêmement importante. Vous voyez, on a, c'est un peu comme dans le voyage au bout de la nuit. On passe par différentes phases. On est en Afrique. Il fallait une partie africaine, sans doute, à ce roman, au Mali et au Sénégal. Est-ce que ça faisait partie du projet, justement, la description de la société coloniale par de l'espace français, on va dire, l'espace colonial français. L'Algérie, même s'il est évoqué. Ensuite, l'Afrique de l'Ouest, le Sahel.
Non, ça, j'avais pas du tout de projet. Non, ça s'est pas posé en ces termes. Ça, c'est plutôt la façon dont j'ai procédé, c'est d'avoir eu quelques éléments sur mon histoire familiale et ensuite de me dire, mais en fait... c'est quoi cette histoire? Parce que quand même, dans la légende familiale, ça c'est mon oncle qui m'a raconté ça, la chanteuse se retrouve dans un hara à Dakar. Et là, il y a une sorte de... J'y arrive pas tellement à traiter cette info. Un hara à Dakar. Donc finalement, la façon dont j'ai procédé, c'est que je me suis intéressé à l'élevage des chevaux à Dakar. Et je me suis dit, bah finalement, c'est pas impensable d'imaginer un lieu où on élève des chevaux qu'on louerait à l'armée et où il y aurait le samedi soir, par exemple, des fêtes, des concerts, des spectacles.
Mais il fallait un moyen d'arriver jusqu'à Dakar. Et pour ça, il y a justement ce moment qui est un des plus passionnants du roman, qui est le Mali et cette société coloniale de culture du coton.
Ça, c'est la découverte totale. J'avais absolument pas l'intention de parler de ça. Et la découverte, c'est quand je suis tombé sur une thèse approfondie de 2 fois 700 pages sur une compagnie qui s'appelle pas exactement la Coculco, mais enfin très très proche. Moi, je l'appelais la Coculco.
Compagnie de culture du coton.
Voilà. Et en fait, j'avais pas réalisé, je soupçonnais même pas en fait que ça puisse fonctionner comme ça. Donc là, je me suis appuyé sur des témoignages tout à fait réels. Concernant la façon dont fonctionnaient ces entreprises avec des deniers publics et qui, en fait, au prétexte de lancer économiquement une région des bords du Niger, maintenaient les populations en esclavage et perturbaient l'économie totale de la région, en fait. Tout ça, c'est une vraie découverte. Et comme pour la magie, je suis tellement fasciné par ces infos que je découvre que je les intègre à mon récit.
Mais il y a aussi là, on voit le médecin formé à Toulouse, celui dont on a vu qu'il a été infirmier pendant la Première Guerre mondiale, qu'ensuite il est revenu, il a terminé ses études, il s'est intéressé dans sa thèse de quelle façon est-ce qu'on pouvait sevrer un drogué à l'époque. C'est lui qui se retrouve médecin colonial, dont on sent bien qu'il vaut mieux pas rentrer dans les détails. Enfin, on est bien loin du serment d'Hippocrate quand même.
Ouais, et en plus, ce Jean Lacroix, médecin qui se retrouve à Adiré, c'est pas un mauvais bougre. Simplement, il se retrouve, même si la question que se pose sa fille Jeanne, c'est qu'est-ce qu'il est allé foutre là-bas, en fait? Pourquoi est-ce qu'il a une carrière qui l'attendait à Toulouse? Est-ce qu'il a autre chose à cacher? Qu'est-ce qui fait qu'on fuit comme ça sur un autre continent? Mais c'est plutôt un bon gars. Il essaye de faire le maximum. Il bosse 15 heures par jour pour alléger la peine des gens. Simplement, parfois, il y a des contremaîtres un peu violents qui ont tendance à tabasser les travailleurs. Et lui, on lui demande de cautionner ça. Et donc, il y a une discussion avec sa compagne de l'époque, Syrah, du moment, qui vit avec lui, et qui lui dit, mais là, il faut que tu prennes position de manière plus claire. On peut pas rester ensemble si tu courbes les chines. Et en fait, comme beaucoup de bons élèves, t'as courbé les chines dans ta famille, t'as courbé les chines à l'armée, et là, t'as un boulot de salopard, et tu continues de courber les chines, c'est... voilà.
Nicolas Richard, ce traitement, ces coups, les cravaches, les peines infligées en coups de cravache aux travailleurs récalcitrants, tout ça, c'est historique.
Totalement. C'est totalement fondé. Oui, oui, absolument. C'est, d'ailleurs, je mentionne à la fin du livre, je mentionne 2 références, dont cette thèse. Le nombre de coups de bâton n'est pas inventé. Non, tout ça, c'est absolument avéré. C'est ça qui est glaçant.
Les médecins était là. C'est-à-dire que ce rôle de médecin existait bien dans ce moment-là.
Absolument.
Et comment est-ce que vous avez imaginé alors que Jean puisse s'en sortir? Est-ce que c'est justement grâce au fait qu'il a cette compagne et cette autre fille qui est la demi-sœur donc de la narratrice? À quel moment vous croyez qu'il va
Je ne sais pas si son sort... Alors là, peut-être, on ne peut pas trop dire ce qu'il arrive à Jean Lacroix, mais je ne suis pas persuadé qu'il s'en sorte, en fait. Je suis même persuadé qu'il ne s'en sort pas.
Tout dépend ce qu'on appelle s'en sortir.
Voilà, c'est ça.
Et Nicolas Richard, vous avez aussi donc un portrait de Dakar, on l'a vu. Quand on referme le livre, on apprend, on relit un peu l'histoire à l'envers. On va apprendre énormément de choses qu'on n'avait pas soupçonnées sur les personnages antérieurs. Et notamment sur ce numéro de fusil, Winchester. Et j'aimerais qu'on entende juste une seconde la liste absolument magnifique de ce qu'est ce monde, Nicolas Richard. C'est au début du texte une affiche tout simplement d'un des spectacles de ces cabarets où il y a tout d'abord les Roselins, trio vocal, deux hommes et une dame. Puis Cavalieri, l'incomparable imitateur des compositeurs célèbres. Mona Gambette, la guincheuse du Soudan. Les sœurs Indra, transformatrices. Jacques Contard, anecdotier. Blanc-Bec, le fakir pâle. Des Roses et Poupettes, dompteuses d'hommes. Chaud burlesque et Lucie de Maille, fine voix étoile. On trouve aussi un Abu Boira, par exemple, personnage assez extraordinaire, capable de soulever un tonneau avec sa langue. Est-ce que finalement, dans tout ça, il n'y a pas surtout, Nicolas Richard, un immense plaisir de la langue, justement, de l'écriture, de la faconde, du texte?
Ah oui, complètement. Oui. En fait, ça m'amusait de tomber sur des affiches de l'époque et de les détourner et de les tordre jusqu'à ce que, comme le passage que vous venez de lire, jusqu'à ce que chaque mot me plaise. Et donc, oui, totalement, la fascination des mots, de la façon dont ça sonne.
Et Nicolas Richard, je me demandais, est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas aussi un peu du métier du traducteur, qui est celui qui justement passe un peu son temps à chercher des mots, à chercher des expressions, qui avance comme ça dans la langue pour écrire un autre, mais en tout cas par ses tâtonnements au fur et à mesure.
Ah oui, c'est certain. Bah, le travail du traducteur, entre autres, c'est aussi le travail de relecteur. Et moi, en traduction, c'est le moment, la phase que je préfère, quand le gros œuvre est terminé et que je peaufine, je relis, j'essaye de voir, m'arranger pour que ça sonne au mieux. Et donc, absolument, oui. Ouais. La traduction apparaît dans ce roman, elle apparaît à deux titres, très discrètement. Les paroles de chansons d'Emma sont en fait des détournements traduction d'autres chansons. Donc la traduction est présente à ce stade-là. Et dans le tout dernier chapitre, il est question de traduction. Et là, je reste dans la logique de l'énigme, puisqu'il me semble que la narratrice dit « j'ai pas eu le temps de chercher la traduction ». Et je me dis même qu'il y aura peut-être des lectrices ou des lecteurs qui vont aller chercher le sens de cette traduction. Ils identifieront relativement facilement de quelle langue il s'agit. Et ça fera c'est un élément clé de l'énigme, en fait.
Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas Richard, de nous avoir rendu visite dans l'entretien littéraire. Cette émission était réalisée par Laurence Millet avec Élise Leu à la technique. Merci à Aurélie Marsay qui m'a aidé à la préparer. Et bien sûr, vous pouvez réécouter et podcaster l'entretien littéraire sur le site de France Culture et l'appli de Radio France.